Chapitre 70. Mélanie. Willy et moi avons consommé notre union durant cette folle soirée. Après toutes ces années. Nous l'avons fait par l'entremise de nos pions, bien sûr, avant de nous rendre au manoir. S'il avait suggéré une telle chose, même à demi-mot, avant de passer à l'acte, je l'aurais sûrement giflé. Mais son gigantesque pion noir ne perdit pas de temps en préliminaire. Jensen Luar saisit Miss Sewell par les épaules, la culbuta sur l'herbe douce au pied d'un chêne vert et la posséda. Nous posséda. Me posséda. Alors même que le nègre pesait de toute sa masse sur Miss Sewell, je ne pus m'empêcher de me souvenir des murmures que Nina et moi échangions lorsque, adolescentes, nous passions la nuit dans le même lit. Nina, qui se piquait d'être blasée, me racontait d'une voix essoufflée des histoires de toute évidence apocryphes sur les attributs et les prouesses des hommes de couleur. Séduite par Willy, plaquée au sol par la masse de Jensen Luar, le nez dans l'herbe, je délaissais Miss Sewell en faveur de Justin, avant de me rappeler confusément que la négresse de Nina avait affirmé ne pas être envoyée par elle. Heureusement que je savais que cette fille avait menti. Je voulais dire à Nina qu'elle avait raison. Ce n'est pas par hasard que j'insiste sur cet épisode. Si l'on accepte les sensations quasi oniriques que j'avais éprouvées à l'hôpital de Philadelphie par l'entremise de Miss Sewell, c'était là ma première expérience de l'amour physique. Mais l'exubérance grossière du pion de Willy n'avait pas grand-chose à voir avec l'amour. Elle me rappelait davantage la frénésie avec laquelle le chat siamois de ma tante montait une pauvre chatte qui avait le malheur d'être en chaleur. Et je dois confesser que Miss Sewell devait être constamment en chaleur, car elle réagit aux avances frustres du nègre avec une lubricité qu'aucune jeune dame de ma génération ne se serait permis de manifester. Quoi qu'il en soit, cette expérience s'avéra de courte durée et mes réflexions furent étouffées dans l'œuf. Le pion de Willy se releva brusquement, se tourna vers la droite et ses grosses narines palpitèrent. « Mon pion approche », murmura-t-il en allemand. Il plaqua mon visage sur l'herbe. « Ne bouge pas. » Et il grimpa sur les branches basses de l'arbre comme un énorme singe noir. Suivit une lutte absurde et sans importance à l'issue de laquelle le pion de Willy emmena avec nous au manoir le prétendu pion de Nina, le dénommé Saul. Il y eut un instant quasi magique, quelques secondes avant que les gardes nous encerclent, où toutes les lumières, tous les projecteurs et toutes les lanternes s'allumèrent, et où je me crus transporté dans un royaume féerique ou sur le point de pénétrer dans Disneyland par une entrée secrète et enchantée. Le départ de la négresse de Nina et les événements grotesques qui l'avaient suivi m'avaient distraite pendant quelques minutes. Mais lorsque Kelly revint à la maison avec le corps inanimé de Howard et le cadavre du voyou noir, j'étais prête à me concentrer entièrement sur ma rencontre avec C. Arnold Barrett. Mr. Barrett était un parfait gentleman, et il accueillit Miss Sewell avec toute la déférence que méritait un de mes représentants. Je sus immédiatement que la laideur et la grossièreté de mon pion ne l'empêchaient nullement de percevoir ma beauté et ma maturité. Étendu sur mon lit à Charleston, baignant dans la lueur verte des machines du docteur Hartmann, je sus que l'éclat féminin que j'avais senti rayonner en moi était transmis à la sensibilité raffinée de C. Arnold Barrett, en dépit du caractère fruste de Miss Sewell. Il m'a invité à jouer aux échecs, et j'ai accepté. Ce jeu ne m'avait jusque-là inspiré aucun intérêt, je l'avoue. Les échecs m'étaient toujours apparus comme un divertissement prétentieux et lassant pour le spectateur. Roger Harrison et mon cher Charles y jouaient régulièrement, et je n'avais jamais pris la peine d'apprendre les noms et les mouvements des diverses pièces. Je préférais de loin les parties de dames que je disputais avec ma mabousse, pour tromper mon ennui d'enfant lors des journées pluvieuses. Un certain temps s'écoula entre le début de ce jeu ridicule et le moment où Mr. C. Arnold Barrett réduisit à néant mes illusions. Mon attention était souvent divisée car j'étais fort occupée à préparer ma maisonnée dans l'éventualité du retour de la négresse de Nina. Le moment pouvait paraître mal choisi, mais j'estimais que le temps était venu pour moi de mettre en route le plan que j'avais conçu quelques semaines plus tôt. Pendant ce temps-là, je continuais de rester en contact avec l'homme que j'avais observé pendant plusieurs semaines lorsque Justin partait en promenade au bord du fleuve avec la négresse de Nina. Je n'avais plus l'intention de l'utiliser, comme on me l'avait indiqué, mais le maintenir conscient, en apparence, représentait un véritable défi pour mon talent, vu la visibilité de sa position et la complexité du vocabulaire technique en sa possession. Plus tard, je devais me féliciter d'avoir fait l'effort de maintenir le contact avec lui, mais sur le moment, ce n'était qu'une source d'irritation parmi tant d'autres. Et la stupide partie d'échecs opposant Willy et son hôte suivait son cours telle une scène surréelle expurgée d'Alice au Pays des Merveilles. Willy allait et venait, comme un chapelier fou en tenue de soirée. Je laissais Miss Ewell se faire déplacer de temps en temps, me fiant à Mr. Barrent, qui m'avait promis qu'elle ne courait aucun danger. Et les autres pions pitoyables sautaient d'une case à l'autre, en prenaient d'autres, se faisaient prendre à leur tour, et mouraient d'une mort futile avant d'être évacués de l'échiquier. Je ne prêtais guère attention à ce jeu infantile qui ne m'intéressait guère, jusqu'au moment où Mr. Barrent eut à mon égard un geste fort décevant. Nina et moi avions notre propre conflit à résoudre. Je savais que sa négresse reviendrait avant l'aube. En dépit de ma fatigue, je me hâtais de préparer la maison en vue de son retour.